Daniel, écoute à Marim, Perek Malef, je reprends, Daphne Zayn Aoud Alef, 10 lignes par le bas, Hotch Behemet. Le Gmor Zaken explique dans ce Perek combien il est important de s'engager au service de Dieu avec Kabbalatol, en acceptant le joug de Dieu. Pas seulement pour respecter les mitzvot l'otahase, mais aussi pour respecter les mitzvot asé. Avec obéissance, avec soumission, avec crainte de Dieu, avec bitoul, un profond effacement de soi-même. Et c'est seulement dans ce cas que notre avoda sera shlema, complète, qu'on va pouvoir y intégrer la Kedusha et la Shrina. Si ce n'est pas le cas, on ne pratique pas Torah Mitzvah dans cet esprit, avec tant de crainte de Dieu et de Bitoul, alors même si la Mitzvah a effectivement été accomplie, mais elle n'a pas apporté ce qu'elle aurait dû apporter. La Torah est appelée Oz Vetushia, parce qu'elle apporte Oz de la force au Nefesh Elokit. Tushia, elle affaiblit, Milashon Tashkocho, elle affaiblit le Nefesh Abamit, l'âme animale. Et pourtant, ça ne marche pas systématiquement. Chaque fois que j'apprends la Torah, j'apporte plus de force à mon nefesh Elokit. J'affaiblis mon nefesh Abahamit. Vraiment, pas toujours. Ça dépend justement dans quel état d'esprit, dans quel esprit j'apprends la Torah. Si j'apprends la Torah avec Bitoul, Tan Leshonim, Ratecha, je ne fais que répéter les mots de Torah que Dieu est en train de dire. Je n'ai pas d'autres intérêts, d'autres idées derrière la tête. Là, ça fonctionne. Là, on pourra dire que la Shrina et la Kedusha vont éclairer Torah et Mitzvot que tu pratiques dans cet esprit. Et tout cela va t'élever, va te raffiner, va t'améliorer. Alors ce sera Oz Vetushia. Alors ça apportera de la force à ton Nefesh Elokit. Et cela va affaiblir ton Nefesh Abamit. Mais si ce n'est pas le cas, alors on appellera ça Naval Birshut HaTorah. Tu es bien Birshut HaTorah, ça veut dire que tu pratiques effectivement Torah et Mitzvot. Mais en vérité, tu n'y es pas. Comme l'expression qui dit, c'est cachère, mais ça ne sent pas très bon. Ça veut dire, tu pratiques bien Torah et Mitzvot, mais l'odeur est nauséabonde. L'odeur, ça représente ce qu'il y a de plus profond. L'avoda des Ktoret, par exemple, c'est la avoda par excellence dans le Beth Amikdash. On faisait brûler des encens dans le Beth Amikdash. On dit de quelqu'un qu'il a du flair, pour parler d'une aptitude profonde. Ici aussi, quand cette expression parle de ce qui est cachère, mais qui ne sent pas bon, ça veut dire qu'a priori de l'extérieur, je vois quelqu'un qui pratique Torah et Mitzvot. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Il manque ce bitoul, ce kabbalatol. Il manque Yirat Hashem, cette crainte de Dieu qui est indispensable pour engager notre service de Dieu. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas Asherat Hashrina. Alors nous avons expliqué que si on ne parvient pas à développer un véritable sentiment de crainte de Dieu pour motiver Torah et Mitzvot, on doit au moins essayer, on doit au moins y réfléchir. On doit au moins comprendre que Dieu mérite qu'on craigne. Et si ça aussi on n'y arrive pas, on doit au moins essayer d'y réfléchir et essayer d'y arriver. Et dans ce cas, son service de Dieu ne sera pas appelé une avoda shlema, une avoda complète, mais une avoda gmura, accomplie. Accomplie plutôt que complète. Et c'est à ce sujet que l'Admor HaZaken va continuer maintenant. Et il dit, Ve'ot shebehemet mekayem gam mitzvatira. En vérité, il accomplit aussi lorsqu'il essaie d'y réfléchir. Il essaie au moins de développer cette crainte de Dieu. Eh bien, il a au moins accompli la mitzvah de craindre Dieu, lorsqu'il est au moins en train d'y réfléchir. Parce qu'à ce moment-là, au moins, au moment où il y réfléchit au moins, mais il pense à Dieu, alors il craint Dieu au moins à ce moment-là. Alkol panim ke mora basarvadam, hediot. Au moins comme on pourrait craindre un être de chair et de sang, c'est-à-dire un homme simple, le fachot sheno melech hamabit alav, au moins comme si c'était un homme simple, même s'il n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un roi, shenimna ba avuromila sodavar sheno agun benav, et il va s'empêcher de faire quelque chose qui ne serait pas très joli. Ça veut dire que s'il n'arrive pas à ressentir cette crainte de Dieu, et s'il n'arrive pas non plus à comprendre cette crainte de Dieu, le fait qu'il essaye au moins d'y réfléchir, ça s'appelle aussi mitzvah tira. C'est la mitzvah de craindre Dieu, un niveau très basique bien sûr. Mais au moins à ce moment-là, quand il pense à Dieu. Tout au long de la journée, il ne ressent pas de crainte de Dieu. Il ne l'a pas non plus intégré dans son esprit. Cette idée ne l'a pas pénétré. Elle n'a pénétré ni son cœur, ni son esprit, mais au moins il essaye d'y réfléchir de temps en temps. Et en ça, il accomplit la mitzvah de Yirat Hashem. Au moins au moment où il y pense, il craint Dieu. Au moins, comme on craint de faire quelque chose de pas très joli, si jamais quelqu'un nous regarde, si quelqu'un veut faire une bêtise, mais qu'il y a du monde qui le regarde, il va essayer de se retenir. Alors bien sûr, c'est très loin de la crainte de Dieu dont on a parlé précédemment, au début du Perek. Fina Hashem Nitzavalav, Dieu est présent au-dessus de lui, avoir conscience de la grandeur de Dieu, de sa présence, il me regarde, il m'écoute, c'est le roi des rois. On n'en est pas là, bien sûr. Mais au moins, il craint Dieu autant qu'il qu'il peut craindre quelqu'un qui est en train de le regarder. Et quand il a envie de faire une bêtise, eh bien, il va se retenir. Alors, pour récapituler, il s'agit de savoir que l'on doit obéir au moins parce que quelqu'un me regarde. Même si je n'ai pas intégré qui est celui qui me regarde, je n'ai pas intégré le fait qu'il s'agit du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, qui est à la fois Memale Sovev Kula Kamek Lo Hashiv, qui est à la fois intégré de la création, au-delà de la création, et devant qui la création est insignifiante. Mais il sait au moins que quelqu'un le regarde. Et c'est déjà un niveau très basique, bien sûr, mais c'est déjà un premier niveau de crainte de Dieu, celui qu'on est au moins en droit d'attendre de lui. C'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken chez Zonikre Tira, c'est ce qu'on appelle aussi la crainte de Dieu. Que Moshe Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai le Talmidav, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, à Rabbi Yoshua Rabbi Elazar, avant de quitter ce monde, il leur a dit, Yehi Ratzon Sheimora Shamayim Alechem Kemora Besavadam. Que Dieu fasse que vous ayez la crainte de Dieu comme on craint une simple personne qui sera en train de nous regarder. Alors Rabbi Yoshua Rabbi Elazar, qui étaient eux-mêmes de grands tzadikim, on dit à leur maître Rabbi Yochanan ben Zakkai, quoi. Seulement jusqu'ici, vraiment si peu. Et il leur a répondu, Tedou, sachez, Kshadam Over Avera, quand quelqu'un veut faire une Avera Omer, qu'est-ce qu'il dit? Chez le Iran, Adam Khoulé. J'espère que personne ne me regarde. Il y a un Mamar d'Itzemar Tzedek qui rapporte que lorsque l'on rentre chez soi et qu'on met la main sur la mezouza, eh bien, c'est justement le moment d'y penser à tout cela. Pourquoi? Parce que quand je rentre chez moi, personne ne me regarde. Je rentre chez moi, je suis tout seul. C'est maintenant le moment d'y réfléchir. Vine Hachem Nitzavalav. Attention, je suis filmé. On me regarde, on m'écoute. Rak Sheira Zoni Kreti Ratata. Sauf que cette crainte de Dieu est basique. On l'appelle la crainte inférieure. Ira traite, la crainte de la faute. Shekodemet le Chochmato, qui va précéder sa sagesse. Veyira Ila Yire Boshet, alors que la crainte supérieure sera une crainte plus respectueuse d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que l'Admor Zaken veut nous dire ici? Il y a un passage dans Pirkei Avot qui dit « Imein yira in chochma, imein chochma in yira ». S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. C'est la traduction. Avant de savoir de quoi il s'agit, déjà on se demande, mais alors décide. C'est d'abord la crainte ou d'abord la sagesse? On commence par quoi? Yira ou chochma? Alors d'abord, bien sûr, il faut définir ce que désigne Chochma, la sagesse. Mais la sagesse de Dieu, c'est ce qui s'exprime à travers Torah et Mitzvot. Chochma, c'est Torah et Mitzvot. Mais comment aborder Torah et Mitzvot? Imein Yira en Chochma, dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Tout commence par Yira, Kabbalatol. Il faut d'abord savoir obéir pour obéir. C'est une première étape qui est incontournable. Bien sûr, ensuite, on passera à autre chose. Mais cette première étape est incontournable. Je dois d'abord obéir parce que je dois obéir, comme un soldat dans l'armée. Un soldat dans l'armée de Dieu. Après, je pourrais développer d'autres sentiments, mais comme un soldat. Puisqu'on a repris l'exemple du soldat. Un soldat pourrait apprécier son supérieur. Il va le considérer. Mais il doit d'abord et avant tout lui obéir. Parce que même s'il l'apprécie beaucoup, même s'il le considère beaucoup, il l'apprécie et le considère dans une certaine mesure seulement. S'il doit prendre des risques, il doit mettre sa vie en danger. Il pourrait se dire, une seconde, j'aime beaucoup le chef, mais pas à ce point-là. Par contre, si dès le départ, il est soumis, il n'est qu'un numéro, une propriété de l'armée, un bien de l'armée, alors on est déjà sûr qu'il va obéir, il est déjà sur le bon fil. Tu pourras ensuite aller au-delà. Quand en plus, tu vas apprécier ton supérieur. Tu vas aller encore au-delà. Tu sauras te dépasser encore plus. Mais au départ, tu dois déjà accepter d'obéir. Comme cette histoire qui raconte qu'un jour, c'est une histoire que le Ravi raconte plusieurs fois dans les Farbringen. Souvent, le Ravi raconte plusieurs fois les mêmes histoires dans les Farbringen, parce que une histoire, ce n'est pas une histoire simplement pour nous, que l'on raconte pour nous épater, mais une histoire que l'on essaye d'intégrer, une histoire pour laquelle on essaye d'intégrer l'enseignement. Alors, c'est l'histoire d'un chassid du Rabbi Maharash, qui s'est disputé un jour avec sa femme, et puis ils se sont séparés, et puis finalement, les semaines ont passé, et puis il a décidé que le moment était venu de faire la paix avec sa femme. Alors il a décidé de reprendre le chemin de la maison, et puis en même temps d'aller à Pétersbourg, parce qu'il devait là-bas signer un gros contrat avec l'un des généraux de l'armée. Il était dans les travaux publics, et il avait vraiment un gros contrat à signer. Mais il s'est dit, avant de faire tout cela, dans l'ordre, je vais d'abord aller voir le rabbi, Rabbi Marash, lui raconter ce que j'ai l'intention de faire, et puis ensuite, je rendrai visite à ma femme pour me réconcilier avec elle, et ensuite, je m'occuperai de mes affaires, j'irai à Peterbourg rencontrer le général de l'armée que je dois rencontrer pour signer ce contrat. Et il va donc voir le Rabbi Marash, il lui fait part de ses projets. Le Rabbi Marash lui dit non, tu ne rentres pas d'abord chez toi, tu vas d'abord aller à Peterbourg. Alors notre chassid est très étonné. Les affaires c'est bien, mais il pensait que Shalom Bayit, ça passe peut-être avant. Se réconcilier avec sa femme, c'est peut-être plus important. Et donc il a osé poser la question au Rabbi Marash. Il a dit, mais pourquoi vous me demandez d'abord d'aller à Peterbourg? Pourquoi pas d'abord me réconcilier avec ma femme? Et le Rabbi Marash lui a dit, si tu savais pourquoi tu serais toi-même un rabbi. D'autres mots, il n'a pas voulu lui donner la réponse. Bien, et finalement, comme c'est un chassid de Rabbi Marash, il obéit, il va à Peterbourg, il se rend à la maison du général où il devait rencontrer pour signer le contrat, et là, il le voit sur le pas de la porte avec une valise. Et il lui dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, vous vous souvenez, on avait un contrat à signer. Et il dit, écoute, t'as vraiment beaucoup de chance, parce que là, j'étais sur le départ, j'étais prêt à partir pour de longues semaines, voire de longs mois, je ne serais pas revenu avant une longue période, et le contrat que nous allons signer maintenant, eh bien, il serait resté en stand-by pendant de longs mois, et ça aurait été très gênant pour toi. Vraiment, t'as beaucoup de chance. Et du coup, notre chassid a compris pourquoi le Rabbi Marash l'avait envoyé si vite à Peterbourg. Très bien. Il est ensuite parti se réconcilier avec sa femme. Le problème, c'est que pourquoi le Rabbi pouvait pas lui dire? Le Rabbi Marash, au lieu de lui donner une réponse de Normand, si tu savais pourquoi, tu serais toi-même un Rabbi, voilà, c'est tout simplement pas une réponse. Il aurait pu lui dire tout simplement, écoute, je sais que le général va bientôt partir, et donc il faut que tu t'y rendes tout de suite. Pourquoi le message du Rabbi n'a pas été plus clair? Et le Rabbi explique. Pourquoi le Rabbi Marash lui a donné une réponse pareille? Parce qu'il a voulu lui donner une leçon. Il a voulu lui apprendre qu'il faut obéir parce qu'il faut obéir, pas parce qu'il y a une raison pour obéir. Parce que ça, c'est la base de tout notre service de Dieu. Et c'est ça qu'il a voulu apprendre à notre chassid. Et c'est tellement important que c'est là la raison pour laquelle on a un peu de mal à faire une tchouva complète et sincère. Je vais vous expliquer. Si quelqu'un fait une avéra, puis ensuite il la regrette vraiment, bien, que se passe-t-il ensuite? Les jours, les semaines vont passer, les heures peut-être, ou les années, mais en tout cas, il va recommencer, il va récidiver. Et c'est cyclique, ça ne s'arrête jamais. Il fait une avéra, il la regrette, et puis ça tient un certain temps, et puis il recommence. Et c'est comme ça pour tout le monde. On est tous des multi-récidivistes. Parfois pour des fautes graves, parfois pour des fautes moins graves, parfois pour des fautes qu'on considère même plus comme des fautes. Quelqu'un l'a énervé, il va mal parler sur lui, il va dire du lashon hara, il ne se rend même pas compte du problème. C'est naturel, c'est normal, il m'a énervé. Aucune raison de regretter quoi que ce soit. Et ça continue au point de ne même plus savoir discerner le bien du mal. Et la question qu'on pourrait se poser, mais je sais bien que quand j'ai regretté d'avoir fait cette faute, j'ai vraiment regretté, j'étais sincère. Comment ça se fait que je récidive comme ça à chaque fois? Pourtant, je suis persuadé que j'étais sincère. Je me connais. Quand j'ai regretté la dernière fois, c'était vrai. J'avais vraiment décidé de ne plus recommencer. Comment j'ai pu en arriver là? C'est qu'en vérité, on s'est attaché aux symptômes du problème et pas à la cause du problème. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a un problème de santé. Il a une petite éruption sur la peau. Il va aller consulter un médecin, certainement pas très compétent, qui va lui prescrire une pommade. Il a quelques boutons sur la peau, on lui prescrit une pommade. Ça va passer. Mais ça va revenir. Pourquoi ça va revenir? Parce que le médecin aurait dû rechercher plus loin. Il aurait dû rechercher le fond du problème. Prescrire des examens biologiques, par exemple, pour poser un bon diagnostic. Puis pouvoir donner la bonne prescription ensuite, prescrire un antibiotique ou ce genre de choses. Pour résoudre le fond du problème et pas seulement ses symptômes. Pour éviter que les symptômes réapparaissent. Si tu ne résous pas le problème de fond, les symptômes vont disparaître. Réapparaître, puis disparaître et réapparaître. Eh bien, les averot, ce ne sont que des symptômes. Quelqu'un va pas manger kasher. Un autre ne fera pas Shabbat. Un autre ne mettra pas les tfilin et les mzuzot. Mais tout ça, ce ne sont que des symptômes. La vraie maladie, le vrai problème, c'est brigatol. Lorsque je n'accepte pas d'obéir. Alors quoi? Je dois obéir comme ça? Tout ce qu'on me dit, je dois le faire sans réfléchir. Je n'accepte pas. Je veux bien faire certaines mitzvot, à condition que ça soit pas trop difficile, que ça ne me prend pas trop de temps, que ça ne me coûte pas trop d'argent, que ça ne me fatigue pas trop. Mais c'est tout. Obéir à 100%, faire tout ce qu'on me dit, vraiment, je dois le faire. Je suis pas d'accord. Alors c'est pour ça que lorsque quelqu'un va faire tchouva, il va regretter sincèrement. Et ça va récidiver ensuite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas traité le problème à la source. Brikatol. Il considère, je ne suis pas un soldat, je suis pas un robot. Moi aussi, je suis là. Il faut compter avec moi, avec mes idées, avec mon avis. J'ai aussi mon mot à dire. Et voilà le point sur lequel insiste ici l'Admor Zaken. C'est le problème principal qui nous intéresse. Brikatol. Et donc, on doit prendre la décision d'obéir, d'obéir pour obéir. Et j'ai plusieurs façons d'obéir. Je peux obéir dans l'ordre, d'abord parce que j'ai peur d'être puni. Bon, c'est vraiment la crainte la moins haute. Et puis, je peux obéir tout simplement parce qu'il y a des lois, il faut les respecter. Puis aussi, je peux obéir ensuite parce que je considère la grandeur de Dieu. Je vais développer une crainte de Dieu plus ou moins haute. Une crainte plus haute, plus basique, mais de toute façon, ça s'appellera à craindre Dieu. Et c'est exactement ce qu'on attend de nous. Des itira ve itira. Il y a crainte de Dieu et crainte de Dieu. On peut craindre Dieu de différentes façons. Aval beliira klal. Mais s'il n'y a pas du tout de crainte de Dieu, lo fachale laba valevada, alors l'amour pour Dieu seul ne suffira pas. Comme Moshe Ofen ne yachol lifroa b'knaf echad, comme un oiseau qui ne pourra pas voler avec une seule aile, et trilouchimu en trengat finmush, le petit connu. Parce que l'amour et la crainte de Dieu sont les deux ailes de l'oiseau. Ça veut dire que si c'est seulement l'amour de Dieu qui me motive, mon engagement restera limité. Je l'aime beaucoup, mais jusqu'à un certain point seulement. Alors qu'au contraire, si c'est la crainte de Dieu qui me motive, mon engagement sera sans limite. Et c'est la question qui vient souvent dans le domaine de l'éducation. Comment éduquer un enfant? Est-ce qu'il faut d'abord lui apprendre à obéir ou bien il faut lui donner envie d'avancer? Quel est le bon chemin? Et la réponse, c'est qu'un enfant doit d'abord savoir qu'il y a des règles, il y a une autorité, il faut obéir. Le reste suivant ensuite. Après, le message va passer. Dans notre Perek, l'Admor HaZaken souligne l'importance de craindre Dieu. Mais l'amour de Dieu a aussi une belle place dans notre programme. C'est simplement pas l'objet de notre Perek. Mais on y viendra aussi, Bezrat Hashem. L'amour et la crainte de Dieu sont les deux ailes d'un oiseau. Alors bien sûr, il y a une sicha où le rabbi rapporte au sujet de Elisha Balaknafayim, Shabbat Memtet, l'histoire qu'il racontait là-bas. Elisha qui avait des tfilines, et puis finalement, ces tfilines, lorsqu'un soldat grec l'a arrêté, elles se sont transformées en colombes. Et Tosfot demande, une colombe peut voler avec une seule aile, lorsqu'elle est fatiguée. Et ça contredit ce que nous disons ici. Nous avons dit que la colombe, l'oiseau, a besoin de ses deux ailes. Rabbi apporte plusieurs réponses. D'abord, la deuxième aile doit être présente, même si elle ne fonctionne pas. Et ensuite, elle ne doit pas seulement être présente, elle doit tout de même faire des mini battements. C'est seulement comme ça que ça va fonctionner. Comme un avion, si un moteur tourne à 100% et que le deuxième tourne à 10%, ça vole quand même. Ça vole mal, mais ça vole. Mais avec une seule aile, ça ne volera pas. Il faut au moins une deuxième aile. Ça veut dire que tu peux développer plus ou moins de crainte de Dieu. Mais c'est indispensable. Tu dois savoir que tu dois obéir, sinon rien ne fonctionnera. Tu dois savoir qu'il y a une autorité. Brikatol, te débarrasser du joug de Dieu, c'est la source de tous les problèmes. Quand quelqu'un fait une avéra, c'est pas seulement parce qu'il avait envie de manger quelque chose qui n'était pas cachère, ou de fumer Shabbat. À la base, il n'a pas intégré qu'il devait obéir. Même si nous allons parler ensuite de la place majeure, de la place importante, qu'a l'amour de Dieu dans notre service de Dieu. Nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.